maintenant, oui, c'est toutes les, toujours les mêmes. Un peu plus loin. La tradition juive, maintenant, matrice de la tradition chrétienne. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, on voit dans un discours, un dialogue de Jésus, en Jean chapitre 5, toujours assez vigoureux, entre Jésus et, dans Saint Jean, c'est les Juifs, hein, comme si l'auteur ne l'était pas. Enfin, Jésus, ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père, votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en moi, vous croiriez, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je vous dis ? Donc, pour comprendre Jésus, il faut aller à Moïse. Il faut comprendre ce que dit Moïse. Alors, allons voir Moïse. Allons voir Moïse. Hein, ce qu'on se représentait de Moïse dans la tradition rabbinique. Et ici, on a une tradition, certainement l'œuvre des pharisiens. L'œuvre des pharisiens, surtout cette première, c'est les maximes des pères. Hein, on dit tout ce qui a été dit à propos de la parole de Dieu dans les deux premiers siècles. Et ensuite, c'est pas fini, ça continue après. Mais ce petit corpus-là s'arrête au début du IIIe siècle. Donc, alors voilà, le début. Moïse reçut la Torah à partir du Sinaï. Donc il est au sommet du Sinaï, là, il va recevoir la Torah. Alors la Torah, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs sens, mais il y a un sens restreint, premier, les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et puis ensuite il y a les autres parties de la Bible, et puis il y aura, on va voir, tout le reste qui l'entoure. Et il reçut la Torah, il l'a transmise à Josué, son second. Josué l'a transmise aux anciens, on est toujours là dans le désert, hein, c'est des anciens, les 70 anciens qui reçoivent l'Esprit dans le livre des Nombres. Les anciens l'ont transmis aux prophètes. Oh, alors là, un saut. Les prophètes, c'est le temps des rois, toute la vie d'Israël. Les prophètes l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée. Encore un saut dans l'histoire. Cette Torah est transmise, reçue, transmise, vous voyez, reçue, transmise. Donc on reçoit pour transmettre. Ceci dire trois choses. Soyez pondérés dans l'exercice de la justice, suscitez beaucoup de disciples, faites une haie autour de la Torah. Gestion de la communauté pour les responsables. Veillez à bien respecter la Torah, donc prendre toutes les précautions, et puis surtout susciter beaucoup de disciples. Donc pour que cette Torah soit magnifiée, il faut qu'il y ait beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples. Il n'y a pas qu'un livre, vous voyez, hein, il n'y a pas qu'un livre. C'est la Torah, et pourtant il n'y a rien de la Bible là-dedans. Bien sûr que Moïse a reçu la Bible, il a reçu les tables de pierre. Mais aussi, comment il a fait le pauvre Moïse? Bon, il ne savait pas, mais il a reçu tout ça. Ça passe par lui. Siméon le Juste, c'est sans doute un grand prêtre qui date des années 219-200 avant notre ère, dont l'auteur du livre de Ben Sira, dans son chapitre 51, admire la splendeur quand il sort du temple le jour de Kippour, où il a côtoyé, enfin d'assez près, la présence divine à l'intérieur du temple dans lequel le Saint des Saints ne pouvait rentrer qu'une fois par an. Et ce Simon le Juste, donc, a cette maxime, il a aussi une maxime, tu vois, on reçoit et on transmet, mais en transmettant, on dit un peu plus. En transmettant, on dit un peu plus. Ça ne va pas contredire ce qui précède, mais ça enrichit. Le monde repose sur trois choses, sur la Torah, sur le culte, et sur les actes réciproques inspirés par l'amour. Alors, la Torah, dans un premier temps, on pouvait comprendre au 1er siècle, ou même avant le 1er siècle, dans cette tradition déjà ancienne, ça pouvait être simplement les cinq premiers livres de l'Écriture, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. Progressivement, ça devait venir tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a ici une série de maîtres, de personnes, de personnages qui reçoivent de ceux qui précèdent et qui transmettent, et qui en rajoutent toujours. Et ça, ça fait partie de la Torah. Il n'y a pas simplement l'écriture, vous voyez, ça, c'est autre chose, c'est ce qui jaillit d'une tradition qui reçoit son écriture, bien sûr, mais qui va l'interpréter sans cesse et qui va s'enrichir. Donc, le monde repose sur trois choses. La Torah, hein, qui est à accueillir, qui est à recevoir, comme Moïse la reçoit au Sinaï. Hein. Au Sinaï, il est là au sommet, et voilà que dans au sommet de cette montagne, dans cette création infinie, infiniment belle, mais cette création qui est finie, qui ne donne pas raison de son existence, dans le fond, hein, eh bien, il y a une ouverture à la source, à celle qui l'a fait vivre. Hein. Et pour que cette création subsiste, que ce monde subsiste, il faut qu'il y ait cette relation à la source, à la Torah, à la source première, à la transcendance divine, ce qui donne vie, ce qui nous donne, d'une certaine manière, nous n'avons pas raison de notre existence, mais qui nous donne raison de notre existence. Donc, ça repose sur la Torah, et puis, deux expressions, le culte, c'est-à-dire la relation verticale, si on peut prendre cette image, la relation, justement, cette transcendance, à l'ouverture. Écoute Israël, hein, c'est fondamental aussi, tu reçois. Et puis, les actes réciproques inspirés par l'amour, car on verra que si on est en relation avec cette transcendance, forcément, nécessairement, on est en relation les uns avec les autres, dans une relation de fraternité, dans une relation d'amour. Voilà. Y a une tradition qui dit, c'est un psaume... que dans le psaume, la terre eut peur et puis elle s'éteint tranquille. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la terre qui a eu peur qu'elle s'éteint tranquille? Ben, c'était qu'on arrive au sixième jour de la création et puis on annonce solennellement ce sixième jour, le sixième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu la création et puis ensuite il va y avoir le septième jour, le Shabbat, la création est terminée. Alors ça veut dire que Dieu déclare à la création, si personne ne reçoit la Torah, je démolis tout. Et la création a eu peur, et finalement, Israël a reçu cette Torah, on a soufflé. Hein. Donc, le monde repose, son existence repose sur notre relation à la source. Voilà, relation interpersonnelle et relation à la transcendance. Un passage du Nouveau Testament où on trouve ce double commandement, amour de Dieu et amour des autres. Jésus vient de parler avec les Sadducéens, si vous connaissez l'Évangile, vous savez cette discussion avec les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection des morts. Ils ne croient pas. Jésus y croit, lui. Hein. Et puis les pharisiens aussi, bien sûr. Alors, il a très bien répondu aux Sadducéens, et là, il y a un scribe qui est là, qui trouve qu'il a bien répondu, et qui a envie tout de suite de discuter avec lui. Puisque, comme il répond bien, ça va être intéressant. Et il l'interroge, non pas sur le temps qu'il fait, évidemment, mais sur quelque chose d'essentiel, quel est le premier des commandements? C'est en Marc, chapitre 12. Jésus répondit, le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». Ce n'est pas « Écoute Israël, le Seigneur est unique, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». C'est différent de « unique ». Il est un, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de contradiction. Et pourtant, c'est lui qui gère toutes ces différences entre nous, nos différences qui sont là. La variété infinie de la nature, évidemment, mais nous, on n'est pas deux à se ressembler, évidemment. Et pourtant, ces différences sont une expression du Dieu un, transcendant. Alors, si et en dehors de lui, il n'y a rien, évidemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que l'aimer de tout son cœur, toute sa force, et aimer son prochain, et aimer son prochain comme toi-même. Et le scribe est tout à fait d'accord. Très bien, maître, tu as dit vrai, il est un et il n'y en a pas d'autre. Non pas comme dans nos traductions souvent, il est unique et il n'y en a pas d'autre. S'il est unique, il n'y en a pas d'autre, évidemment. Le pharisien, le scribe, là, il ne répète pas les mêmes choses. Dieu non plus dans la Bible, il ne répète jamais les mêmes choses. Hein, il est un, il n'y en a pas d'autre. Et l'aimer tout son cœur, toute son intelligence, toute sa force, aimer son prochain comme toi-même, cela vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, on va passer. Donc, il y a cette représentation de la Torah, c'est-à-dire de non seulement la Bible, vous voyez, mais toutes les traditions qui sont autour. Alors, on va trouver, on va voir ce que c'est, la question qui se pose déjà avant le temps du Nouveau Testament, déjà le 1er siècle, 2e siècle avant, qui est racontée par un historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui est né, semble-t-il, il a dû naître en l'an 19 de notre ère, paraît-il, je crois, et surtout, il a été un des acteurs de la révolte juive de 70 de notre ère, qui s'est terminée par la catastrophe épouvantable à l'époque pour les juifs et même pour les premiers chrétiens, impressionnante, la ruine du temple, etc. Lui-même a participé à cette révolte, il s'en est sorti à temps pour passer du côté des Romains et entrer finalement dans la famille impériale chez les Flaviens, c'est pour ça qu'il s'appelle Flavius Joseph. Alors, il raconte ce qui se passe là entre un groupe de notre ère, enfin un groupe chrétien de l'époque, les pharisiens et puis les sadducéens. Il décrit le monde juif de son époque et de l'époque avant, hein, donc parfaitement contemporain au Nouveau Testament. Il dit il y a trois grandes écoles, trois grandes philosophies qu'il appelle les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. On parlera pas des esséniens, ils sont un peu sectaires à part, mais les sadducéens, c'est les gens qui sont au pouvoir et qui gèrent le temple et qui discutent, qui gèrent le pouvoir en lien avec la puissance occupante, d'abord Hérode le Grand et ensuite les Romains. Et puis enfin les pharisiens. Les pharisiens qui aiment se retrouver dans des clubs de temps en temps pour pratiquer la Torah au mieux, mais qui sont en lien avec le peuple. Alors voilà comment il décrit cette relation entre pharisiens et sadducéens. Je voudrais maintenant expliquer ceci. Les pharisiens ont transmis au peuple certaines coutumes qui viennent de leur père et qui ne sont pas écrites dans la loi de Moïse. Pour cette raison, le groupe des sadducéens les rejette. Alors pour les sadducéens, ils disent qu'il faut considérer comme loi valable, révélation, ce qui est écrit et pas observer le reste, tout ce qui vient de la tradition. On laisse tomber. Ce qui est écrit. Donc on se réfère à l'écrit. Bon, si on a l'écrit, à quoi bon discuter après, etc. On a l'écrit, il n'y a qu'à voir ce qui est écrit. Vous voyez, Saint Paul va dire que la lettre tue. Hein. Si on se réfère simplement à l'écrit, il n'y a plus de vie. Alors, des disputes et des différends importants se sont produits entre eux à ce sujet. Alors que les sadducéens ne peuvent persuader que les riches, et que les riches, ceux qui ont ce qu'il faut. Honnêtement, on a ce qu'il faut, vous voyez. À comment on se plaindre? Que chercher d'autre? Et que la population ne l'est pas acquise, les pharisiens ont au contraire la foule pour allier. Alors, c'est ça, le 26. Joseph dit que les pharisiens, ce qu'il va dire exactement là, hein, les pharisiens ont transmis au peuple certaines coutumes. C'est pas tout à fait vrai. Les pharisiens ont reçu, comme dans le peuple les autres, des coutumes, des pratiques, des sens de la Torah déjà existantes dans le peuple, mais non pas écrites, en dehors de l'écriture, et ils les ont considérées comme des choses données à Moïse dès l'origine, ça veut dire, Moïse n'en savait rien, mais des choses données à Moïse dès l'origine, qui sont passées par cette source de Moïse, et qui viennent de Dieu, qui viennent du Sinaï, qui sont valeurs de parole de Dieu et de révélation. Alors là, c'est une petite, un petit épisode qui en donne l'exemple. C'est le jour de fête de la fête des tentes. le jour de la fête des tentes, on avait l'habitude de tourner autour de l'autel, ce qui se fait aujourd'hui même dans le jour de Soukhot, dans le monde juif, où on tourne avec des rameaux autour de la Torah. Là, ben, il n'y a plus de temple. Et il y avait ce qu'on appelait le battage des branches de saule. Les gens aimaient cette coutume. Ils aimaient cette coutume pour y aller, pour la faire. Mais voilà, il arrivait parfois, cette fête qui dure 6 jours, il arrivait qu'elle tombe pendant le Shabbat, qu'il y ait un jour que ce soit le Shabbat. Alors, un certain nombre de groupes, des Sadducéens, ici des Boétusiens, des sortes de Sadducéens qui viennent d'Égypte, hein, qui disent « Non, ça, on ne peut pas faire ça le Shabbat ». Parce qu'on fait des gestes qui sont interdits le jour du Shabbat, donc on ne le fera pas. Ce qui ne plaisait pas aux gens. Mais non, ils aimaient cette pratique. Alors, un jour que c'était le Shabbat, ces fameux Boétusiens ont décidé de mettre des grosses pierres sur les branches qui entouraient l'autel, de façon qu'on ne puisse pas pratiquer ce rite. Et qu'ont fait les gens? Le peuple de la terre, ici, hein, j'ai traduit les Ame Haaretz, hein, c'est le peuple, les gens simples, le peuple de la terre, le peuple, quoi, la communauté, point. Hein, pour les spécialistes, ils ont enlevé ces pierres et ils ont refait ce rite. Et puis, il y a un rabbin, là, qu'on déclare que cette pratique qu'on appelle les saules du torrent, elle vient de Moïse. Au Sinaï, elle a été dite à Moïse au Sinaï, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quand elle date, c'est né dans la communauté, et on reconnaît que c'est quelque chose vraiment porté par la communauté qui a valeur de parole de Dieu, qui a valeur de révélation.